Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a un an, mes bien chers frères, nous entrions dans le temps de la Passion avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cette année, la situation paraît plus dramatique encore, puisque des millions de chrétiens dans le monde entier vont être privés de toute cérémonie liturgique pendant la Semaine Sainte et même le jour de Pâques, à cause des mesures de confinement. En ces jours les plus saints de tout le cycle liturgique, ces jours où l'Église ordonne la communion pascale, la distribution de la Sainte Eucharistie se trouve de fait comme interdite par décision commune du gouvernement et des évêques, et non seulement en France, comme ça nous était déjà arrivé durant la Terreur, mais presque sur la moitié de la planète. Faut-il s'en affliger ? Et oui, bien sûr, mes frères. Si nous voulions regarder la réalité en face, nous devrions tous être en train de pleurer, non pas tant sur l'épidémie, qui est somme toute relativement limitée par rapport à ce que nos pays ont connu dans le passé, mais sur cette effroyable famine eucharistique qui s'est abattue si rapidement sur nos pays. Le grand mal, ça n'est pas tant que des malades ou des personnes âgées meurent, nous sommes tous mortels, c'est qu'ils meurent le plus souvent sans sacrement, enfermés dans des hôpitaux, des mouroirs, où le prêtre n'a plus le droit de pénétrer. Le grand mal, mes frères, ça n'est pas l'épidémie, c'est ce que les hommes en font. Et ils sont tellement capables de transformer eux-mêmes en un terrible châtiment ce qui aurait pu, dans d'autres circonstances, être relativement bénin. Et le grand mal, finalement, c'est toujours le péché, cette folie de l'homme qui refuse le plan de son Créateur. Et évidemment, s'il faut pleurer aujourd'hui, s'il faut craindre, s'il faut trembler, ça n'est pas devant le coronavirus, mais devant le péché. D'ailleurs, la Sainte Église nous encourage non pas à trembler, mais à pleurer, en une magnifique oraison qu'elle a placé juste au seuil du temps de la Passion. C'était la dernière oraison de la messe d'hier, celle que l'Église ajoute pendant le carême, après la post-communion. « Deus qui sperantibus in te misereri potius elegis qua mirasci, da nobis digne flere malaque fecimus ut tue consolationis gratiam invenire mereamur. Ô Dieu, qui préférez exercer votre miséricorde plutôt que votre colère envers ceux qui espèrent en vous, donnez-nous de savoir pleurer le mal que nous commettons, afin que nous méritions de trouver la grâce de votre consolation. » Vous aurez remarqué, mes frères, nous demandons au bon Dieu qu'il nous fasse la grâce de pleurer. Pleurer le mal que nous avons fait. Parce que nous savons que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite bénéficier de sa consolation. Et cette petite oraison résume parfaitement les dispositions que nous devons avoir durant le temps de la Passion. On pourrait d'ailleurs la réciter chaque matin pendant cette quinzaine, et on pourrait même dire qu'elle résume parfaitement toute notre religion. La religion que nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celle de la consolation. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Car c'est inévitable, pour pouvoir être consolé, il faut d'abord pleurer, il faut d'abord être dans l'affliction. Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, est le Sauveur qui vient nous faire sortir du mal où nous nous étions plongés. Et il est venu en tant que Sauveur, c'est-à-dire il est venu pour réparer un mal dans lequel nous étions. Sa Sainte Mère est nommée la consolatrice des affligés. Et même le Saint-Esprit, le paraclet qui nous est envoyé à la Pentecôte, est souvent appelé par la liturgie comme le consolateur, paraclé, paraclétos, on traduit de différentes façons, parfois on traduit l'avocat, parfois le consolateur, l'idée est celui qui vient soutenir, celui qui vient aider quelqu'un dans une difficulté. Alors effectivement, ça peut être aussi bien l'avocat que celui qui console, mais l'idée qui reste, c'est l'idée qu'il vient auprès de quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans le mal, qui est dans la peine. Et c'est de cette façon-là que nous est envoyé le Saint-Esprit. Donc, ici-bas, le chrétien n'est pas le stoïcien qui se raidit pour ne pas montrer sa faiblesse. Le chrétien ne ressemble pas non plus au bouddhiste qui cherche à se rendre indifférent à tous et à tout, pour ne pas avoir à pleurer. Il n'est pas l'utopiste qui veut bannir tout mal de la cité terrestre. Il n'est pas non plus le révolté qui ne peut pas accepter la souffrance. Non, le chrétien accepte de pleurer. Il accepte que la terre soit la vallée des larmes. Mais il pleure dans la paix, et on pourrait presque dire il pleure dans la joie, parce qu'il sait que Dieu va venir le consoler. Et que cette consolation dépassera beaucoup, dépassera de très loin tout ce qu'il aura pu souffrir. Et voilà notre religion. Dieu ne permet jamais le mal si ça n'est pas pour en tirer un plus grand bien. Dieu n'aurait pas permis le péché d'Adam si ça n'était pas pour nous donner un consolateur qui nous donnera encore plus de joie que s'il n'y avait pas eu cette tristesse. Et vous le savez, c'est ce que chantera le diacre lors de la veillée pascale, lorsqu'il commencera à s'exalter en chantant la beauté de cette nuit pascale, et il finira par dire « O felix culpa, quae nobis talem et tantum redemptorem meruit » « Ô heureuse faute qui nous a valu un tel et un si grand rédempteur ». Donc, nous devons accepter la souffrance, accepter de pleurer, parce que la consolation nous apportera plus de joie que si nous n'avions jamais été dans la peine. C'est un mystère. Le dire ainsi ne suffit pas à le faire comprendre, mais c'est la réalité. Notre religion est celle de la consolation. Alors, entrons dans ce temps de la passion avec ces dispositions de savoir pleurer. Savoir pleurer, pour ça nous pouvons lire les textes liturgiques qui vont nous y aider. Évidemment, il y a les récits de la passion de notre Seigneur. Il y a aussi deux textes de l'Ancien Testament qui nous sont donnés par la liturgie de l'Église pendant la Semaine Sainte et qui nous mettent tout à fait dans cette disposition. Ce sont d'une part le psaume 21 qui commence vraiment dans les pleurs. Notre Seigneur l'a entonné, même on pourrait presque dire dans l'apparence du désespoir, notre Seigneur l'a entonné sur la croix. « Deus, Deus, meus, quare me dereliquisti, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais quand on regarde le psaume en entier, on s'aperçoit qu'il se termine vraiment dans la joie, et cette joie est la joie de la consolation. Et de même, on peut lire le fameux passage d'Isaïe, le chapitre 53 d'Isaïe, le serviteur souffrant, c'est exactement la même chose. On voit le serviteur qui souffre, mais cette souffrance va appeler, cette tristesse va appeler ensuite la bénédiction de Dieu, et cette bénédiction est celle de la consolation. Donc, oui, il faut que nous sachions pleurer durant ce temps de la passion, et si nous avons l'occasion de lire les textes de Jérémie, les fameuses lamentations de Jérémie que nous entendrons aux ténèbres, au jeudi, vendredi, samedi saint, dans lequel le prophète se lamente sur la cité sainte, on ne peut pas s'empêcher, en les lisant, de faire l'application à la situation actuelle, la situation de la Sainte Église, la situation de notre pays, et cela correspond malheureusement de façon tellement exacte qu'on est presque amené à pleurer en lisant ces textes. Donc oui, excitons-nous à pleurer, mais surtout excitons-nous à bien pleurer, parce qu'il ne suffit pas de pleurer, il y a des gens qui pleurent ici-bas, mais qui pleurent mal, et pour ça, ils ne sont pas consolés. Quand notre Seigneur dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », cela signifie « Heureux ceux qui pleurent leur péché. C'est ce qu'on a dit à l'instant dans l'oraison. Danobis digne flere, mala que fait chimus. Donc, pleurer en se rendant compte que le mal vient avant tout de nous. Il vient évidemment du péché de notre premier père. Nous ne sommes pas chacun individuellement, nous ne sommes pas le seul à pécher, mais il vient au moins de l'humanité, et déjà collectivement on peut dire il vient de nous, et puis personnellement, chacun d'entre nous, nous voyons bien, oui, nous sommes pécheurs. Et si des grands saints comme sainte Catherine de Sienne craignaient, là où elle passait, d'attirer la malédiction de Dieu par sa venue, parce qu'elle avait sentiment de ne pas avoir correspondu à la grâce, qu'en est-il de nous ? On peut se demander, est-ce que si j'avais davantage correspondu à la grâce, j'aurais pas contribué à éviter les maux dont sont accablés aujourd'hui notre pays et la Sainte Église ? Donc c'est les dispositions dans lesquelles nous devons être en ce temps de la Passion, ce dimanche, premier dimanche de la Passion, nous préparer à pleurer, pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, au contraire, en sachant que Dieu préfère exercer sa miséricorde plutôt que sa colère envers ceux qui espèrent en lui. Donc nous pleurons, mais avec espérance, l'espérance d'être consolés. Nous attendons cette grande consolation qui nous sera donnée le jour de Pâques, à la résurrection, en attendant bien sûr la résurrection finale. Et nous penserons à cette joie qui a été celle de la Sainte Vierge lorsqu'elle a vu notre Seigneur ressuscité, qui lui est apparu. Alors s'il y a une consolation qui a été immense ici-bas, c'est certainement celle-là. La plus grande des consolations a été celle de la Sainte Vierge qui est passée par la plus grande peine. Et on peut se demander d'ailleurs comment a fait notre Seigneur, parce que passer d'une grande peine à une grande joie, c'est quelque chose d'assez difficile, et on peut penser que notre Seigneur s'y est pris avec une grande miséricorde, une grande douceur, pour petit à petit faire passer ainsi la Sainte Vierge de cette désolation, mais qui a toujours été une désolation dans la paix, dans l'espérance, à la joie de la résurrection. Et demandons donc à Notre-Dame, que nous allons fêter cette semaine par Notre-Dame de compassion, demandons-lui de nous aider à compatir, à pleurer, pour pouvoir ensuite être consolés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.